On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur la saga Vaisseau d'Arcane. Donc le tome 2 s'intitule L'Empire des Abysses. Et on est toujours dans le podcast Lectus. Bienvenue. Et si je devais choisir mon nom de code en tant qu'opératrice, ce serait Brindille. Et toi, Justine?
Oh, c'est trop mignon.
Ce serait quoi?
Et pourquoi Brindille alors?
Bah Brindille parce que je suis toute fine. Et voilà. Juste pour ça, pour une caractéristique physique, on va dire.
Ok.
Et toi, ce serait quoi?
La botaniste.
Ah, la botaniste, mais ouais. Oui, c'est trop bien trouvé. Mmh. Stylé.
Je pense que ouais, je ferai des petites. Je cultiverai des petits poisons, les petites plantes.
Nickel.
qui vont bien.
Est-ce que tu peux nous faire un résumé du coup de ce deuxième et dernier tome?
Et oui, donc le deuxième tome de Vaisseau d'Arcane, intitulé donc, comme on l'a dit, L'Empire des Abysses. On se situe 10 mois après que les poissons crânes ont envahi le Grimark. Donc on retrouve le nouveau gouvernement qui s'organise autour de Xerold et de Nîmes. Eux, ils ont un objectif, ça va être d'étouffer les dernières poches de rébellion qui se trouvent dans la province, voire en dehors, potentiellement dans l'Hurleuse, là où on a laissé Soph et Solal. Mmh. Et effectivement, la frontière avec le Nord est toujours le théâtre d'affrontements entre les Orchidiens et les Abysses. On apprend des choses dans ce tome sur l'arcane, sur des plans dans des plans dans des plans.
Oui.
Mais nos amis dans le Nord sont bien déterminés à protéger l'arcane. Donc ils vont mettre au point un plan pour essayer de le sauver, tout simplement. Des griffes des poissons crânes. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'Empire et de Nîn. Donc on va avoir droit à une grande bataille pour sauver l'arcane. Et la question, ça va être de savoir qui mettra au point le plan le plus ingénieux pour contrer les autres.
Et oui, qui va gagner? Et du coup, on se retrouve tout de suite pour en discuter.
Alors, le tome 2, il commence par un passage assez intéressant, enfin, changement de sujet narratif. Je sais pas si tu... T'as remarqué, on est d'abord sur des coupures de presse, comme
oui.
Si un journal avec des petites entrées pour en savoir plus, oui. Rendez-vous page, temps.
Oui.
Et donc on a un peu un résumé, on a la une d'un journal qui nous résume un peu la situation. On sait que 10 mois sont passés effectivement entre la fin du livre 1 et le début du livre 2. Donc on a toute l'histoire depuis la proclamation de l'Empire des Abysses jusqu'à là où on se trouve aujourd'hui, au début de ce livre. Et on a même, j'ai remarqué, on a un point de vue, on sait que Solal s'est réveillé à la fin du tome 1,
oui.
Donc de toucher, il est revenu lui. Bon, a priori, il a toujours une présence dans sa tête, mais,
mais bon, il est là.
Il est redevenu lui-même. Et il y a une tentative, d'ailleurs, qui n'est pas tenue tout le long du livre. Il écrit à la première personne, au jeu. Alors que d'habitude,
oui.
C'est plutôt il. Et c'est comme si il allait nous raconter
son histoire.
Voilà, son histoire à lui et l'interview du siècle.
Mm.
Donc c'était un peu un changement par rapport au tome 1. Enfin, en tout cas, sur le début de ce livre, on pense... On pense partir sur une piste et puis finalement non.
Oui.
Enfin, en tout cas, en termes de simplement narration et écriture.
Mm.
Donc voilà, on retrouve donc Solal. Il est parti avec un des membres de la tribu de la Lance Brisée,
oui.
Et plusieurs autres orques. Et on nous dit qu'ils parcourent la banquise. Et leur but, ça va être d'aller retrouver l'arcane.
Tout à fait.
Mais... pour l'instant, on les abandonne, on retrouve d'autres personnages.
Oui, du coup, comme tu disais, en fait, dans la coupure les coupures de presse qu'il y a au début du livre, donc on apprend que la Tovki a signé l'armistice grâce à Gabado, mm. qui est toujours l'ambassadeur des Abysses sur place. On nous dit que Calcius Xerold est le nouveau gouverneur et que le sous-gouverneur n'est autre que Nim. Voilà, donc ça c'est le nouveau gouvernement qui dirige en fait le Grimark. Et après, on a aussi une discussion avec un nouveau personnage qu'on n'avait pas vu dans le premier. Gabado, il discute avec Yulba. Je sais pas si tu te souviens, qui est une exploratrice des abysses. Et en fait, on apprend que c'est...
C'est l'équivalent de brume.
Mais oui, c'est un peu ça.
Pour les poissons crânes.
Exactement.
C'est elle la première espionne, on va dire, renseignement
c'est ça.
À la surface.
Ouais, et en fait, on nous apprend dès le début du livre que finalement, l'assassinat de Lubado, qui était le prédécesseur de Gaba, et ben en fait, c'est les abysses eux-mêmes qui ont commandité son assassinat.
Mm.
Donc on se dit, ah, mais en fait, on s'est fait flouer dès le départ.
Mais ils sont pas si gentils.
Non, tout à fait. Et puis, d'un autre côté, on va retrouver Sof.
Oui.
Mm. Et alors, qu'est-ce qu'elle devient, Sof?
Sof, elle est toujours avec les orques, hein, toujours avec la tribu de la lance brisée, toujours avec Danka. D'ailleurs, petit rapprochement également.
Ah ouais, d'ailleurs, rapprochement quand même. Hein.
entre eux deux. Mais bon, alors, il ne faisait pas du tout... C'est pas du tout le cœur,
ouais.
Le cœur du livre. Donc on sait que les affrontements, comme on disait dans le résumé, il y en a toujours. Donc cette fois, non pas entre le Grimark et les Orchidiens, mais entre les Poissons Crânes et les Orchidiens. Donc il y a toujours ces affrontements. Et Sof, elle va apprendre à se défendre, puisqu'à la fin du tome 2, elle entend... peut-être pour la première fois, peut-être que ça monte à plus loin, mais en tout cas, la musique commence à faire partie de sa vie.
Tout à fait.
Et donc, elle va être entraînée par les deux assassins du Cénacle encore vivants, donc qui sont Couleuvre et Aigle, alias Will et Nyambé. Mm. Donc, elle va être entraînée par eux avec un nouveau nom de code, de Sof qui est
Aiguille, qui est nul. Hein.
Oui, alors d'ailleurs...
Moi, je trouve ça naze. Il y avait vraiment... D'ailleurs, on en a parlé juste avant l'épisode. En fait, Justine n'avait pas compris que aiguille, ça venait de son métier d'infirmière. Donc bref. Mais en tout cas, ouais, c'est pas ouf.
Oui, et puis en fait, elle va l'utiliser jamais.
Mais jamais. Mmh. Jamais, donc ça n'a rien à voir.
Pour montrer qu'elle fait partie du cul-truc.
Ouais, voilà. Mmh. Mais franchement, je trouve que c'est exactement comme le film LOL. Genre, bonjour, tout le monde m'appelle LOL. Et dans le film, jamais personne ne l'appelle LOL, il l'appelle juste Lola. Genre, c'est nul, en fait. Je lui donnais pas de nom de code à ce moment-là. Bref, petit coup de gueule de l'épisode.
Ok.
Mais voilà, ça fait 8 mois qu'elle s'entraîne avec Nyambé et Will, et elle progresse... en fait, elle est opératrice maintenant.
Oui, clairement. Mm. Mais elle n'a pas encore eu sa première mission. En tout cas, elle est toujours à l'entraînement. Et on nous dit... en tout cas, on laisse instiller qu'il y a quand même un plan qui a été mis en place de leur côté, puisque Solal est parti avec des membres de la tribu, et eux, on nous apprend que bientôt, eux aussi vont partir. Enfin, les orques vont partir.
Oui.
En sachant qu'ils sont divisés, parce qu'il y a une partie des orchidiens qui se sont repliés, puisque là, finalement, leur combat n'était plus avec les humains, mais avec les poissons crânes.
Oui.
Et bref, il y a eu sécession. Il y a une partie qui continue les combats, l'autre qui m'a plu, qui est retournée dans
le
lieu. Oui, tout à fait. Donc on sent que les derniers, je crois qu'ils sont 4 sur les
8 ambules.
Les 8 et 9 tribus, ouais. Ouais. Les 8 et 1 tribu, pardon, qui fait 9, sur les ambules. Et donc c'est l'un des derniers combats et on sait qu'ils vont partir, on ne sait pas encore où exactement.
C'est ça. Et après, donc, on revient du côté de la nouvelle ambassade des Abysses. Donc, on apprend qu'effectivement, il y a Gabado, Xerold et Nim qui en font partie, mais aussi Syrabus Baer, dont on avait parlé dans l'épisode précédent, qui est en fait le dirigeant des armées. Il a eu ce poste, à défaut d'avoir l'industrie Valois pour avoir toutes les armes du pays. Et on a un petit focus aussi sur Gaba. Il y a vraiment, je trouve... une bonne... pas vraiment une bonne coupure, mais dans le premier livre, il est vraiment naïf, il est joyeux, il est ouvert. Là, c'est fini. Hein.
Oui, clairement.
Voilà. Mm. Il a bien compris sa leçon, donc maintenant, Gabado, il est très réservé, il parle pas, sauf si c'est nécessaire. Mais par contre, on comprend qu'il est vraiment à fond du côté de l'Empire des Abysses.
Gabado ?
Oui.
Mm.
Au début du livre.
Au début du livre, oui.
Voilà. Mm. Donc, il est vraiment à fond. Et d'ailleurs, il y a un moment où...
Parce qu'il tient son rôle. C'est lui qui a négocié la paix avec la Turquie. Il est ambassadeur.
Exactement.
Il a été remercié pour tous ses bons et loyaux services.
Tout à fait.
Il tient son rôle.
Exactement. Mmh. Enfin, après, on y reviendra, mais bon. Et d'ailleurs, on a aussi un petit zoom sur la rébellion. ou qui d'ailleurs commandite une attaque au sein même du bureau en fait de Gabado et de Xerold, je sais
ouais,
plus
qui. Oui, oui. Bah, y a Nîmes, il y a Xerold et Gabado. Et Nîmes est un peu rouillé parce que autant lui, c'est un opérateur de terrain. Et ouais. Là, le fait de se retrouver dans les bureaux, ça a un peu émoussé sa musique.
C'est ça.
Et en fait, il se rend pas tout de suite compte que en fait, il y a un aéroscaf voilà, vide à l'entrée de la porte et que c'est une bombe. Ouais.
Mais ouais, donc du coup, il l'entend vraiment de justesse. Donc là, ils se disent, ah ok, en fait, les rebelles, ils deviennent de plus en plus prégnants, en fait, dans la vie, du coup, de Mithridias.
Oui, on sait qu'il y a des poches de résistance dans les grandes villes, et notamment Skema,
oui.
Qui a un port maritime, un port sur la côte, sur la côte.
Oui.
Et parmi, voilà, notamment, on sait qu'il y a des rebelles à Mithridias, donc a priori là où ils sont actuellement, ouais. La capitale. Et aussi dans la ville où ont vécu Sophena et Solal, qui est Myrvald.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, là, en fait, quand ils discutent Nîmes, Xerold et tout ça, on nous dit en fait qu'il y a un lien entre les insurgés de Skema et la rébellion en fait qui est sur place, quoi. Donc on ne sait pas encore comment, mais que visiblement il y a du passage d'armes, etc. Donc voilà, en tout cas, la résistance s'organise. Il y a des gens qui sont vraiment pas contents que bah, les Abyss aient pris le pouvoir.
Mm-hmm.
Donc effectivement, bah,
ils sont... pas encore l'unanimité, ça c'est sûr.
Non,
et
c'est ça.
Y a aussi, on commence à comprendre, notamment par le biais du général. Donc eux, ils mettent le siège devant Skema, devant la ville rebelle.
Mm.
Et en fait, ils se demandent bah, pourquoi c'est que les humains qui font le siège de Skema, pourquoi on n'a pas l'aide des poissons crânes.
Oui, bah, eux, ils sont occupés sur les hurleuses. Et c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, ils ne se font pas... Parce que, oui, on nous dit dans le livre qu'il faut absolument bouter, du coup, tous les rebelles, etc. Et donc, le général des armées, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas plus d'aide et pourquoi il doit juste tenir un siège. Lui, ça le saoule. Et il ne comprend pas, en fait, la finalité de ce qu'il fait, quoi.
Mm.
Et d'ailleurs, bah, du coup, franchement, le peuple des Abysses, il lâche aucune info. Hein.
Non.
Mm. Donc, même nous, on ne sait pas pourquoi... Enfin, si...
Au début, moins, on ne comprend pas. Comprends pas vraiment, mais après, je sais plus d'ailleurs c'est comment c'est révélé dans, c'est après du coup quand Solal découvre rencontre l'Arcane, c'est après qu'on
ouais, ouais c'est à ce moment-là du coup effectivement qu'on le découvre.
Oui, donc juste on enchaîne sur ça quoi.
Bah quasi après, entre temps on apprend quand même que Magnus est devenu rebelle.
Mm.
Et que l'ancienne maison de Soph et Solal c'est devenu le quartier général de la rébellion. Et que le docteur Mérové, donc qui était le supérieur hiérarchique de Soph, en fait partie. Et d'ailleurs, il y a une scène où ils se font attaquer par Nîmes, qui a réussi à les débusquer. Et on se dit que Nîmes, c'est vraiment une grosse crevure. Parce qu'il est tellement à fond dans son idéologie de la paix, en fait, qu'il a apporté, entre guillemets, en aidant les poissons crânes à prendre le gouvernement, que bah, lui, il se dit, bah, tant pis, je vais vraiment aller au bout du truc et il en est convaincu en plus.
Oui, oui, toujours.
Donc voilà, et finalement Mérové se fait tuer et Magnus y réussit à s'enfuir. Et d'ailleurs, il réussit à s'enfuir grâce à l'aide d'un poisson crâne qui va écraser la personne qui essayait de l'empêcher de partir et elle lui remet, l'aéroscaf du coup qui est une poisson crâne, lui remet un paquet à redonner à qui de droit, mais on ne sait pas qui.
C'est ça.
Voilà. Donc il y a toute cette partie où voilà Magnus lui il a continué en fait il a le cœur brisé un peu aussi quoi.
Oui mais il a toujours une mission.
Oui lui toujours. Lui il veut toujours faire tomber l'État et tout donc il est toujours à fond là-dedans. Et on va retrouver un personnage aussi qu'on avait vu dans le premier qui est Brume qui gère en fait Skema.
Oui.
En partie.
C'est ça. Elle a donc à la fin du tome 1. Donc, elle avait livré Garolf de Vise à Gabado.
Oui.
Calcius était greffé sur la rencontre et, en fait, avait voulu la buter.
Oui.
Mais elle avait fait un saut de l'ange, c'est ça, et elle s'était échappée. Et, en fait, pendant l'invasion des poissons crânes, donc, elle s'est réfugiée à Skema et elle a monté, le bastion, enfin, le dernier bastion, on va dire, rebelle du Grimmark. Donc, elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée de personnages dont on a déjà entendu le nom ou qu'on a déjà rencontré dans le tome 1.
Ouais.
Parce qu'elle est accompagnée donc du docteur Solkov. C'est lui qui a greffé les
Les
membres de Magnus.
ouais.
On sait très bien que c'était un espion de la Tufki, mais bon, du coup, pour l'instant, il est avec eux. Et on retrouve l'héritière de la corporation Valois, donc la fille d'Aloxus.
Elisfor,
donc qui a rejoint les troupes rebelles et qui alimente en armes la rébellion.
Ouais, et en plus, moi, j'ai bien aimé ce personnage. Elle m'a beaucoup fait penser au personnage de la mécanicienne dans Atlantide.
C'est
Je trouve
vrai.
que c'est vraiment la même chose. Elle est très jeune, elle est fraîche, mais en même temps, elle est hyper maligne. Elle a des compétences en mécanique qui sont incroyables et qui vont leur servir d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est le seul personnage un petit peu nouveau qu'on a dans ce tome 2, où on en apprend un peu plus. Sinon, c'est globalement que des personnages qu'on a déjà vus.
Oui.
Donc, il n'y a pas de personnages surprises qui vont popper aux deux, quoi.
Oui, on se disait d'ailleurs que c'était une force de ce livre-là. Finalement, bon, même si le premier, bon, il y a tout ce tableau à mettre en place, les personnages à découvrir, l'univers, et voilà, les règles de la magie. En gros, le tome 2, il s'enchaîne très vite et on fonctionne avec les mêmes protagonistes, quasi. Enfin, à part Yulba et elle,
Oui.
on retrouve exactement les mêmes personnages. Donc on n'est pas du tout perdu, il n'y a pas de nouveaux enjeux, il n'y a pas. C'est vraiment
Toujours
dans
les
la
mêmes.
continuité.
Oui, là, on sent que ça va être comment ils vont réussir à gérer tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois, comment ça s'est organisé, etc. Donc effectivement, il y a toutes ces personnes qui tiennent bon, c'est pas le siège, mais si, du coup, qui tiennent la ville de Skema. Et d'ailleurs, Brume, elle fait en sorte d'envoyer des fausses informations à Nîmes pour du coup lui faire croire certaines infos, etc. Enfin, c'est vraiment là, on sent qu'il y a un jeu de pouvoir, de je te fais croire si, mais en fait, c'est pas ça. Et on apprend aussi qu'elle envoie un message caché aux orques, en fait, parce qu'elle sait que sauf non, parce qu'elle la connaît pas encore, mais que Nyambé et Will sont avec les orques. Et en fait, elle leur envoie un message caché, elle espère qu'ils le recevront. Donc ça au début on sait pas trop s'ils vont le recevoir. En tout cas, ils sont
Oui.
toujours sur le front. D'ailleurs, il y a les batailles, elles sont plutôt bien décrites, je trouve, dans le livre, entre les orques et du coup les aéroscaphes. On a vraiment Duncan qui est en chef des armées, qui apprend du coup de ses erreurs parce qu'ils se sont jamais battus contre cette race de poissons. Donc il faut s'adapter, etc. Parce qu'ils ont des canons à eau perforant. Et des scies, je crois.
Ils ont des scies et des lance-flammes.
Ah, ils ont des lance-flammes
Ouais,
aussi?
aussi.
Ah, mais oui. Ouais, enfin bref. T'as pas trop envie de te
Non.
battre avec eux, quoi. Surtout que les orchidiens.
Ah, ils ont des rhinocéros laineux,
Oui.
des ambules, des gros bateaux,
Ouais.
et ils développent des canons avec des lances en bois pour perforer les
C'est ça.
aéroscaphes et tout ça. Mais oui, c'est vraiment l'art de la guerre, quoi.
Donc il y a toute une partie où, en fait, ils tiennent la frontière des hurleuses. Et on le comprend, ils la tiennent pour donner du temps à Solal et aux personnes qui l'accompagnent, aux pisteurs, pour retrouver l'Arcane. Parce que on le rappelle, mais du coup, dans le premier tome, on a appris que l'Arcane, en fait, n'était pas un gisement de magie, mais en fait, était un être vivant. Donc, visiblement, un dieu qui habiterait dans un endroit des Hurleuses. Et l'objectif de Solal, c'est de le rejoindre. Parce que lui, il communique avec lui, du coup, il sait plus ou moins où il est,
Ouais,
etc.
et le but ça va être de le changer de location,
Localisation.
localisation, on va changer de
Relocal,
bateau
monsieur.
aussi, changer de crèmerie si on
Ouais.
veut. Mais oui, le but ça va être de le soustraire au poisson crâne parce qu'on apprend que du coup l'invasion du Grimmark par les poissons crânes c'était pas vraiment leur objectif
Premier.
numéro un quoi.
Non.
Leur objectif c'est bien d'aller récupérer le pouvoir de l'arcane. En fait, ils veulent récupérer l'arcane, l'emmener au fond des océans, couper tout lien avec la surface et faire leur petite vie.
Oui, en fait, ils veulent être les seuls à détenir le pouvoir de ce qu'ils appellent la toute magie. Donc voilà, en fait, on découvre vraiment les intentions qui sont pas du tout celles qui avaient été évoquées au tout début du livre. Voilà, on disait que c'était vraiment plutôt les poissons crânes, ils étaient là pour étudier les humains.
Plutôt pacifique.
Voilà, c'est ça. Et en fait, que ne nie
retournement de situation, je vous envahis. Mais retournement de situation, en fait, je vous envahis pas vraiment.
Je veux tout pouvoir qui est vivant toutes vos vies, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser.
Toujours plus.
C'est ça. Et donc, on a aussi... alors, quand ils sont à Skema, donc voilà, il y a Solal qui est parti à la recherche de l'arcane dans le nord. Et... on a Magnus qui arrive à Skema.
Oui, également.
Voilà, parce qu'il a réussi à s'échapper donc avec l'aide du poisson crâne. Et il arrive pour rejoindre le bastion.
Oui.
Et là... Ça t'a pas marqué.
De quoi?
Il se retrouve du coup, elle savait pas qu'il était pas mort.
Ah oui, mais entre-temps, ça veut dire que les orques sont arrivés. Enfin, tout le monde se retrouve, en fait, à Skema, tu vois.
Oui, j'ai un peu sauté un passage.
Oui, on va effectivement vous en douter. Donc, Brume va arriver à rassembler un peu tout le monde.
Oui.
Donc, y a un traité de paix qui est signé entre Skema...
Un cessez-le-feu.
Un cessez-le-feu, c'est vrai.
Entre... Ils sont pas...
C'est vrai. C'est avec la Tov qui la paix a été signée, mais il y a cessez-le-feu avec Skema. Et à un moment, Brume va se promener sur les remparts de la ville, et là, elle va voir les ambules des orques arriver vers Skema.
Donc, son message est bien passé, mais par contre, ça a mis 3 mois, je crois.
Ouais,
ça a mis vraiment longtemps, le temps de traverser les lignes de front, que ça arrive jusqu'aux orques qui sont en pleine bataille, etc.
Puis les orques avaient leur propre plan de gagner du temps en même temps.
Oui, donc ils sont pas venus plus tôt, ça ils l'expliquent aussi quand ils arrivent, parce qu'elle dit vous avez mis le temps pour venir, et puis ils sont là, mais en fait on avait autre chose à faire aussi, quoi.
C'est ça. Donc les orques arrivent avec les ambules, et donc dans cette, dans cette situation vraiment explosive avec le cessez-le-feu, donc le cessez-le-feu est rompu, puisque la ville de Skema va répondre à l'envoi de véhicules blindés qui vont essayer d'intercepter les ambules. Donc ils vont quand même parvenir, les orques vont parvenir à rentrer dans Skema avec leur gros vaisseau. Et donc sur ces entrefaits, Magnus arrive, donc tout le monde se retrouve, tout ce genre de petit
monde
se retrouve là-bas. Et donc Magnus en arrivant, on le prend pour un traître évidemment. Et ils vont demander, enfin Magnus demande à ce que Soph vienne le reconnaître en tant que son ancien fiancé, parce qu'il est censé être mort. Personne ne sait qu'il est vivant.
Il y a quand même Will et Nyambé qui le savent.
Oui, mais eux, ils n'étaient pas à Skema avant leur arrivée.
Oui, c'est vrai.
Magnus demande à ce qu'on confirme son identité.
Oui, et donc là, forcément, elle est... choc barre.
Ouais, tu sens que ça la mine un peu.
Parce que vraiment, en fait, personne n'a pris le temps de lui dire. Bon, en même temps, c'est un peu délicat. Plus t'attends, plus c'est difficile de trouver un moment pour balancer ce genre de truc en mode, au fait, ton ex-fiancé, il est pas du tout mort, il est toujours vivant et tout. Donc, ça va être un gros morceau quand même.
À digérer, pour
elle. Mais du coup, on n'est pas tout de suite sur la confrontation entre deux. On revient en fait sur l'arcane. Parce que finalement, Solal réussit avec les pisteurs à arriver dans une grotte paumée en plein milieu de la banquise.
Pas très dur d'ailleurs, la recherche de l'arcane.
Visiblement. Ouais. Oui, mais comme il lui parle.
Il
lui a donné les coordonnées GPS en mode « je suis là
». Waze.
Donc du coup, il a pas eu trop de mal à le retrouver. Et en fait, on découvre ce qu'est l'arcane.
Oui. Donc effectivement, on nous parle d'une entité cosmique extraterrestre. Qui serait arrivé un peu chez Père, j'avoue, la mythologie.
Ça fait vraiment le combat des grands dieux, fait vraiment ça. Hein.
C'est ça. Donc une entité cosmique, un grand être plutôt humanoïde, mais on nous dit fait de nuit et d'étoiles.
C'est ça, c'est une galaxie ambulante, quoi.
Un géant, un titan. Oui. Et donc il serait arrivé sur Terre pour combattre son ennemi. Une espèce de serpent reptile qui cherche à coloniser un peu tout le monde en mode V. Et il y aurait eu un grand combat entre eux. L'ennemi donc aurait été tué, mais l'arcane a été blessé. Et donc, elle s'est allongée dans l'herbe, avec des plaies béantes. Super. Et en fait, de ce sang découle l'arcanium, les cristaux.
C'est ça. D'ailleurs, quand il explique, parce qu'il raconte vraiment à Solal l'histoire de la création de son monde... Donc il dit effectivement qu'il s'est battu avec cette présence malfaisante qui voulait juste réduire l'univers en poussière. Donc lui, comme c'est un soldat cosmique dont le but c'est de protéger la vie, voilà, il s'est battu avec lui Et dans le premier livre, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a la province, je ne sais pas si c'est une province, mais la Xamorée.
Oui, c'est une des. On les voit pas trop sur la carte. Il y a la Xamorée, il y a la Mysée aussi,
Oui.
des provinces comme ça qui sont un peu plus lointaines.
C'est ça, que là où se passe l'histoire, mais en tout cas, on dit que la Xamorée, c'est là où il y a vraiment une source d'arcanium qui est assez conséquente. Et en fait, l'arcane l'explique à Solal en disant qu'effectivement, c'est là où ils se sont battus. Et c'est là où il a perdu plus de sang, donc c'est pour ça qu'il y a un gisement qui est plus important. Donc il a traversé les plaines pour aller en fait aux confins du monde pour se réfugier. D'ailleurs, il dit aussi que il est passé à travers les océans et que c'est aussi pour ça que les poissons crânes ont réussi à muter parce que du coup il a mis de l'arcanium dans les océans. Et pareil pour les pixies hein, d'ailleurs. Et voilà. Et c'est là effectivement où on nous dit clairement que les poissons crânes, ils savent où est l'arcane parce qu'ils ont réussi à le déduire et qu'ils veulent le détruire. Enfin, le détruire ou en tout cas,
L'exploiter.
voilà, se l'approprier. Et qu'est-ce qui va se passer du coup?
Eh ben, le plan, ça va être de demander à l'arcane de partir. Et donc, voyant effectivement qu'il ne peut pas partir de lui-même, Solal et l'arcane vont, d'un commun accord, faire le choix de fusionner. C'est-à-dire que l'arcane va prendre l'enveloppe corporelle de Solal
C'est
et
ça.
va aspirer son âme.
Bah après, l'âme, elle reste quand même là parce
Oui,
que.
mais il prend sa
Enfin,
place.
il se partage le corps.
Ouais,
Et
c'est ça.
c'est là qu'on comprend du coup le titre du roman, qui est
Oui.
Vaisseau d'Arcane. Parce que le vaisseau d'Arcane, c'est toute personne qui reçoit en fait une partie de la conscience du coup de cet être cosmique, quoi. Donc Solal devient vraiment vaisseau d'Arcane. Et après, donc, on laisse Solal au fin fond des steppes.
Bah, il y a quand même les poissons crânes qui arrivent jusqu'à eux.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
En fait, ils arrivent pas très longtemps après, sauf que finalement, il fait une.
Bah, la fusion a déjà eu lieu, ils ont
Oui.
déjà fusionné
Il
dans
fait
le
une
corps de
décharge.
Solal, ouais, c'est ça, il explose et donc tout le monde, enfin tous les poissons crânes vont mourir et en fait il va se transformer, tu sais, en une grande météore
Oui.
qui va rejoindre après Skeema.
C'est ça, voilà. Bah, au début, on ne sait pas qu'est-ce qui rejoint, mais on sait qu'il s'envole dans le ciel tel Jésus. Donc, il s'en va.
Jesus.
Exactement. Et donc, après, on a un petit focus sur Yulba Goba, je ne sais plus. Goba, c'est exploratrice.
Goulboulgoul. Il y a un truc.
Goulga. En tout cas, Yulba, donc, qui est l'exploratrice. Et en fait, on découvre que c'est elle qui a recruté Nîmes. Brume l'avait déjà recrutée du côté de Lady là, et Yulba l'a recrutée quand Nîmes il avait 20 ans. Donc on en apprend un petit peu plus sur le passé de Nîmes qui est au final assez trouble. On ne sait pas trop comment il s'est retrouvé opérateur. Donc ça donne déjà un petit point de comparaison. Et d'ailleurs c'est écrit à la première personne, je crois, les parties où il dit j'ai été recrutée. Non, je sais même plus.
Il y a un moment dans le livre où l'arcane va fouiller dans sa mémoire, et
Ah
donc
oui,
là
c'est
où
à
on
la
a
fin.
son histoire.
Oui, là on a toute l'histoire. Et on nous apprend aussi des petits trucs, genre Solal et Nyambé ont couché ensemble.
Oui.
Ça, c'est pareil.
Ouais, un peu pas inutile parce qu'on sait Solal, on nous le décrit comme un peu le poète maudit,
Ah mais c'est un tombeur.
un tombeur, un dandy.
Bonjour.
Sympa, sympa au demeurant,
Oui, voilà, c'est
hein,
ça. Bah, en tout cas, il est très versé sur tout ce qui est plaisir de la chair, que ce soit d'ailleurs homme ou femme,
Oui.
et toutes les jouissances dont il peut avoir,
Oui, c'est
que
ça,
ce
il dit
soit.
qu'il vit pour le
C'est
plaisir.
ça.
Mais on commence aussi à.
À comprendre pourquoi il fait ça.
Ouais, il y a une part d'ombre aussi qui
Qui commence à
l'habite.
émerger.
D'ailleurs, elle n'est pas facile, je trouve. Enfin, je trouvais aussi.
Cette partie.
Ouais.
Ouais, mais d'un côté, ça peut. Enfin, on y reviendra du coup à la fin, mais ça permet de bien clôturer, je trouve.
Ouais.
Enfin, mais oui, moi je l'ai pas trop vu venir d'ailleurs. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce que, pareil, encore un personnage où tu te fais une idée et en fait à la fin, hop, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc ça c'est plutôt bien emmené. Et on apprend aussi que en fait c'est Nyambé qui a dirigé le faisceau lumineux pour faire de Solal un toucher parce qu'elle l'avait pris sur le fait en train de voler les documents pour faire tomber le Xaotikoum. Et ça, c'est pareil, du coup, personne ne l'a dit à Sof. Donc,
Mais a priori, ils ont parlé. Enfin, Niambe et Solal ont parlé avant qu'ils partent dans le Grand Nord.
Oui.
Ils ont pu s'expliquer.
Oui, en fait, il lui en veut
Solal
pas.
Lui en voulait pas, ouais.
Non. Bah, en plus, il est habité par une présence
Oui.
qui est tellement au-dessus de tout que, enfin,
Ça
pour lui, c'est une
relativise,
broutille.
ouais, pas mal de choses.
C'est ça. Et après, on a aussi une partie que j'ai trouvée chouette, qui est le rapprochement justement entre les deux assassins du Cénacle
Oui.
originel, qui est Niambe et Will. Donc, pour rappel, donc Niambe, c'est vraiment une très belle femme, on nous l'a décrit comme ça, à la peau noire. Dans le tome 1, elle a le crâne rasé, mais dans le tome 2, elle s'est laissé pousser les cheveux. Et Will, du coup, c'est un nain, qui a pas un physique très flatteur, qui a la peau grêlée. Mais finalement, le fait de vivre ensemble avec les orques, bah, ça les rapproche. Et donc, ils se confient un peu sur leur premier meurtre.
Oui, c'est marrant ça.
Oui, et là, c'était, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça permet de donner un peu de consistance
Ouais.
et un peu plus de.
L'humanité, ouais.
Oui, voilà. Tu te dis, bon, ok, finalement, ils sont devenus opérateurs parce qu'il s'est passé ça, etc.
Oui, ça donne. Bah, on nous dit dans le livre que bah, un des buts de Brume, ça avait été bah, de recruter des opérateurs voilà, compétents, mais aussi de former. Il y a cette idée de famille quelque part aussi qui est, enfin, voilà, qui est évoquée à plusieurs moments. Et le fait de pouvoir bah, travailler ensemble, c'est pas juste des assassins solitaires, c'est un groupe de personnes.
Oui, parce que forcément, quand on est assassin, on peut se fier à personne. Et d'ailleurs, ça devient un peu une seconde nature.
Un peu parano,
C'est ça. Donc, on voit qu'ils ont un peu du mal au début à se confier. Et finalement, ils arrivent plutôt bien à s'entendre. Et c'est vrai que cette partie était bien écrite.
ouais, même grâce à Soph aussi.
Oui.
Enfin, on sent que c'est elle aussi qui fait un peu le lien entre les deux.
Ouais, tout à fait. Et puis, donc en tout cas, voilà, y a ce début de relation, on pourrait, voilà, d'amitié en fait, qui les lie aussi à Soph parce qu'ils l'ont entraînée pendant 8 mois du coup pour qu'elle apprenne bah, le maniement des armes, qu'elle apprivoise sa musique. Donc vraiment, ils se sont bien rapprochés. Et pendant ce temps-là, du coup, donc là, on était à Skema, voilà, tout le monde se retrouve, il y a les petits secrets qui ont commencé à émerger. On apprend que c'est Gabado en fait qui a demandé à une de ses gardes, donc Ove,
Oui, oui, oui,
Ove,
Selb.
voilà, et en fait c'est elle qui a aidé Magnus à s'enfuir avec un paquet qui était à destination de Brume. Donc voilà, on apprend que on se dit ah ben en fait Gaba il a quand même bien changé comparé au premier, il commence à apprendre à tirer les
C'est
ficelles.
ça, à
Donc
jouer le
ça,
jeu finalement.
exactement. Donc, bah, tant mieux parce que Magnus, il a réussi à rejoindre Skema. Et il y a aussi Larkhan qui arrive à Skema.
Et oui.
Voilà. Et là, on apprend aussi, comme autre petit secret, bah, que Soph a couché avec Domka.
Oui, on s'en doutait, mais.
Oui, on s'en doutait, mais c'est un peu le petit spicy qui va énerver Magnus.
Oui, c'est vrai.
Parce que lui, il se dit, bah, ok, mon ex-fiancée, elle m'a
C'est
remplacée.
devenu une assassin,
Oui, elle a complètement
elle couche avec
changé.
des orques, je la reconnais plus.
Voilà. Donc il y a cette partie où bah oui, ça c'est pareil, c'est quand même bien fait parce que vraiment l'aventure les change en profondeur et du coup bah, lui enfin il se retrouve 8 mois après ben bah, c'est plus du tout les mêmes personnes.
Oui.
Ni lui d'ailleurs parce
Non.
que lui c'est pareil, hein, il s'est un peu fait fracasser
Ouais. Derrière, il y a bah, cette comment ce dialogue, cet échange très touchant avec le docteur Solkov, du coup qui retrouve, puisque c'est lui qui l'a greffé. Et la première question qu'il lui demande, c'est pas genre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie,
Comment ça va?
ouais, c'est juste
Comment vous vous sentez?
comment tu vas.
C'est ça.
C'est bah voilà, en fait c'est pas ton histoire, il faut que tu réapprovises, non, réa.
Réapprivoise?
Oui,
C'est ça, hein?
réapprivoise ton corps
Ouais.
et ton histoire parce que tu es finalement une personne différente.
C'est ça. Et en fait, on apprend que Magnus, bah, lui,
Il vit pour sa mission,
Oui,
mais
il veut
en
pas se
aucun cas,
poser
ouais.
pour penser à des questions existentielles qui en fait lui font mal. Comme bah, par exemple, qu'est-ce qui va devenir quand tout ça sera fini? Est-ce que Soph, elle va vouloir revenir avec lui? Enfin voilà, il y a plein de choses qu'il ignore sciemment pour se protéger. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ouais, le personnage du coup du docteur
Ouais.
qui l'a greffé, il est plutôt. Ouais, c'est vraiment c'est la bonhomie, quoi.
Oui.
Il est là, il vient, il te met une tape dans le dos, enfin il. Il a l'air sympa, en tout cas, pour un espion de la Tovki.
Oui, clairement.
Et donc, comme tout le monde se retrouve à Skema,
Bah le Vérimark le voit pas d'un très bon œil, quoi.
non.
Ça fait beaucoup.
Ça,
Bon.
oui, il y a tout le monde qui converge
Oui.
là-bas, c'est un peu la
Alors
fête.
attendez, vous rompez le cessez-le-feu, vous accueillez les orques, l'Arcane arrive à Skema. Oui.
C'est ça.
Vous allez nous recevoir, quoi.
Voilà. Donc, du coup, ils s'organisent des négociations entre les poissons crânes et le siège de Skema pour justement discuter de l'issue, etc. Donc, ils se disent que peut-être que les poissons crânes vont exiger de récupérer Magnus, ce qu'il est recherché dans tout le Grimark, ou d'avoir l'Arcane. Ils savent pas trop, donc ils sont en train de faire les négociations. Et pendant que les négociations se passent, Soph, elle est envoyée pour sa première mission, qui est
D'assassiner le général Syrabuse, ça?
Baer Syrabuse.
Baer Syrabuse.
Donc elle doit traverser la ligne de front.
Ouais, elle traverse la ligne de front en rampant dans la neige sous un vieux manteau.
Ouais.
Et donc elle va arriver jusqu'au campement du Grimark. Et fait surprenant, en fait, le général l'attendait. Enfin, Nîmes lui avait dit qu'ils essaieraient potentiellement de l'éliminer,
C'est ça.
parce que c'est l'un des derniers généraux du Grimark avec de l'expérience. Et donc ils ont besoin de lui, hein, pour la stratégie militaire. Donc Nîmes l'avait averti qu'ils enverraient certainement un assassin. Et c'était bien vu. Sauf que ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que ce serait Soph.
C'est ça. Et donc, est-ce qu'elle va le tuer?
Oui,
Mais ça se passe pas
mais ça,
vraiment.
oui,
Voilà. Comment ça se
ça se
passe?
passe. Donc le général l'attendait et le général en fait accepte entre guillemets le sacrifice parce qu'il sait bien quel rôle il joue pour les poissons crânes et il y a je sais pas si on a un relent de patriotisme ou
Bah, il le dit, hein. Il dit qu'il est encore fidèle à sa patrie originelle et que en fait le dernier acte qu'il peut faire pour mettre les poissons crânes dans la sauce, c'est de se faire tuer. Donc il s'était fait une raison, du coup c'est plus un suicide assisté qu'une exécution. Il a même le droit de boire un petit peu, etc. Et finalement elle lui tranche la gorge. Voilà.
Mais bah, ce qu'on sait pas, c'est que si Soph a fait la traversée donc de Skema au camp du Grimark, il y a quelqu'un qui a fait la traversée inverse
Eh oui,
du camp jusqu'à Skema. Devinez qui c'est.
c'est Nîmes,
C'est
voilà.
Nîmes.
Donc lui, il a, en fait, donc les négociations entre les poissons crânes et Skema, donc on apprend que les poissons crânes, ils veulent tout simplement l'arcane. Logique, parce que d'un côté, ils étaient là pour ça. Et on apprend que, finalement, Solène, il va accepter de partir avec les poissons crânes.
Ouais, en échange
De pas
de pas se faire attaquer.
de pas attaquer Skema et ses habitants. Sauf que
Bah Solal part, en fait c'est même lui
oui il dit
qui se livre.
oui il dit par contre je viens mais vous faites aucune attaque contre les Skémiens. Sauf que en fait ça va pas être fait et on apprend d'ailleurs que le message qui a été remis à Magnus et qu'il a remis à Brume c'était donc un message de la part de Gabado qui expliquait que justement Nîmes allait être chargée de saboter l'écran de protection de l'orage de Mana pour en fait que toute la ville se fasse buter.
Et c'est ce qui va se passer.
Et ouais, parce que du coup ils n'ont pas le temps en fait de trouver Nîmes, enfin ça c'est le laps de temps est trop court donc finalement dès que Solal part, l'orage éclate. L'écran de protection, il est complètement cassé. Et là, c'est un peu le branle-bas de combat. Donc, il y a le docteur Solkov qui est tué.
Bah, tous les membres du conseil, y compris Brume, il va seulement y avoir une survivante,
Ouais.
c'est Elise Faure Valois,
Ouais, la petite jeune.
la petite jeune de la corporation. Et donc il y a quand même une solidarité qui va s'organiser, puisque les ambules des Orchidiens étant les seules à pouvoir résister aux orages de Mana, la population, enfin celle qui va survivre,
Va se
va
cacher
trouver refuge chez les
dedans.
orques.
C'est ça. Mais en sachant que Solkov, donc lui, il est tué par un pavé. Mais par contre, Brume, elle est tuée par Nîmes,
Oui.
qui lui met une balle. C'est-à-dire que lui, il était rentré justement pour saboter l'écran de protection. Et comme tout le monde un peu court partout, etc. En fait, Niambe va récupérer elle va pour récupérer donc Solkov, Brume et Elise Forvalois. Sauf qu'en courant dans la rue, ben finalement, donc Solkov se prend un pavé, pas de chance, et en fait, ils ont à peine le temps de se mettre à couvert que Brume se fait transpercer par un tir de Nîmes. Donc là, on se dit, ok, on perd quand même des personnages importants de la saga.
Ouais.
Ben, c'est un peu triste, mais bon, d'un côté, moi après, enfin, c'est pas que je préfère qu'il crève, mais sinon, il n'y a pas d'enjeu, quoi.
Oui, on disait qu'il y avait un petit côté Game of Thrones,
Oui.
dans le sens où... oui, moi je suis pas contre les auteurs qui assument le fait de faire disparaître des personnages et tout ça. Enfin, moi je trouve ça complètement ok. Ça rajoute du drame, ça rajoute encore plus de pathos et encore plus d'enjeux. Tu sais que ça va faire réagir les personnages, tu sais que ça va leur faire vivre des émotions, leur donner un autre but aussi, potentiellement les changer, les transformer. Donc moi je suis pas du tout contre le fait de faire mourir des persos dans des livres.
Ouais, bah après, mais c'est vrai que oui, on s'est quand même attaché à ces personnages, même si ça reste quand même des personnages secondaires, ceux-là, je trouve.
Ouais.
Ils sont pas non plus très présents, donc bon, voilà. Et donc finalement, ils vont réussir à sauver une partie de la population de Skema. Et c'est là où Sof, en fait, elle va prendre la véritable mission qu'avait Magnus, parce que finalement, ils vont enfin réussir à discuter. Donc là, Magnus va lui dire que finalement, il venait pas chercher Solal pour l'enfermer, mais il venait pour récupérer la chemise de Solal qui avait une pochette cousue à l'intérieur où il y avait les documents volés du Xaoticum. Et là, du coup, ils se rendent compte tous les deux qu'en fait, ils sont passés à ça de, enfin, d'éviter tout ce qui se passe là,
Ben
presque.
Oui. Donc ils vont retrouver les documents.
C'est ça.
Et donc voilà, ça va leur donner en fait des preuves de l'existence de cette machine.
Oui, cette machine à produire les touchés.
Ouais. Voilà. Et ça va leur donner aussi le nom du scientifique en charge de ce projet-là qui vit à Mithrisias. Et donc, tout le monde se doute un peu que Solal va être enfermé là-bas, donc dans la capitale du Grimark. Et donc, on entre dans la dernière grande partie du bouquin, donc la dernière grande bataille, en sachant que les orques, ils ont pris cher. Donc, ils se sont battus contre les humains, contre les poissons. Ils sont arrivés à Skema. Ils ont pris
l'orage de mana.
Ils ont pris l'orage de mana. Ils ont perdu encore des hommes. Et là... les orques disparaissent, entre guillemets. Il va y avoir que... les ambules rentrent. Il y a Domka, Sameki et les parias qui vont retrouver, qui vont s'engager, mais... à Mithrisias, mais là, on sent bien que les orques, on les perd, quoi.
Oui, et là, on arrive sur la fin du récit où tout va se jouer dans la dernière mission. Et la dernière mission, c'est de récupérer l'Arcane Solal pour éviter qu'ils soient exploités, sachant qu'ils sont renfermés dans... l'Arcane est enfermé dans une cage exprès pour contenir son pouvoir et éviter qu'il ne s'enfuit. Et d'ailleurs, il y a une discussion entre l'Arcane et Nîmes, on va dire, où là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, on en apprend plus sur Nîmes et pourquoi il est devenu opérateur. Donc il y a toute cette partie qui permet de comprendre un peu plus son idéalisme, en fait, et pourquoi il a fait tout ça. Et il y a aussi une partie sur Solal, qui au final est très malheureux de vivre.
Oui, oui, qui a des pensées très sombres. Et il y a toute... carrément dépression, vraiment fond d'être.
Oui, en fait, le personnage de Solal, donc, qui est vraiment un très bel homme, qui drague beaucoup, qui a l'air très souriant, en fait, à l'intérieur, il est...
Il est dévasté,
il
n'a pas de raison de vivre,
c'est ça.
Il est triste.
C'est vraiment la personnification de la dépression.
Ouais, vraiment.
Donc ça du coup l'Arcane le perçoit, donc dans le livre il y a pas mal d'échanges entre Solal et l'Arcane sur des sujets un peu existentiels comme ça. Bon après ça va aussi avec le personnage de l'Arcane, donc tu vas pas parler de « je vais faire mes courses ».
oui, c'est vraiment des questions de fond quoi.
C'est ça. Et donc on apprend que effectivement à Mithrisias, donc on retrouve tous les personnages qu'on a cités tout à l'heure, donc Sof, Magnus, Nyambé, Will, les orques, donc les parias qui vivent déjà à Mithrisias, qui vont en fait récupérer l'adresse du laboratoire où se trouve l'Arcane. Donc ils vont aller récupérer cette information auprès de Alvaro Skern, qui est l'ancien directeur du Xaoticum.
Ouais.
Donc là, il y a tout un truc qui s'organise.
Ouais, c'est un montage un peu long où ils font rien pendant 3 semaines, ils sont dans des planques, et puis après, ils vont espionner le vieux monsieur, ils se retrouvent au bordel. Après, enfin, bref, c'est assez long cette partie-là
Oui,
de
mais
repérage et de
c'est
mise
ouais.
en place
C'est
de.
vrai que c'est un peu long, mais d'un côté, je me dis, tu vois, genre, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr que ça se passait comme ça.
Ouais.
Il y avait beaucoup de temps de préparation pour une action qui dure, genre, même pas 30 minutes, tu vois.
Oui. Au final, ça te met aussi un peu l'eau à la bouche. Tu dis,
Oui.
ok, c'est le calme avant
La
la
tempête.
tempête, quoi. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et donc finalement, ils arrivent à récupérer cette adresse. Donc ils vont y aller, mais par contre, il y a Magnus, il se fait capturer par Gabado. Et du coup, Gabado va le livrer à Yulba et Nîmes, et qui d'ailleurs sont franchement hyper impressionnés que Gabado, qui, on le rappelle, hein, mais était très naïf, croyait un peu vraiment tout ce qu'on lui racontait et tout, que là, il ait réussi à choper Magnus, alors que personne n'a réussi en 8 mois, enfin même plus que ça, et ben ils sont vraiment impressionnés, quoi. Et donc là, Magnus explique à Nîmes que finalement, eh ben, ils sont en train de prendre, enfin, pas prendre en otage, mais d'aller sauver l'Arcane. Donc Nîmes s'en va du bureau. Et au dernier moment, au final, Yulba, qui était encore avec Gaba, Magnus et les deux aéroscafes, et ben en fait, finalement, Yulba, pardon, se fait prendre en otage par Gabado. Et on se dit, ah purée, en fait,
Il a retourné sa veste.
il retourne sa veste.
À son tour, il va trahir sa propre espèce, comme Nîmes a pu le faire.
C'est ça. Et donc après, il y a tout un passage sur le labo secret où en fait tout le monde se retrouve. Et là, c'est pareil, je m'attendais pas. Je pensais vraiment que Nîmes allait être pris au piège, vu qu'il entend plus sa musique, on a l'impression qu'il est plus assez entraîné et tout. Et au dernier moment, il leur dit, mais en fait.
J'avais prévu que vous aviez prévu
Voilà, c'est ça. Donc, on s'est dit, putain, il a encore tout prévu, c'est pas possible. Il dit, oui, bon, bah voilà, le labo, c'est une souricière, donc voilà. Sauf que finalement, il n'avait pas prévu que Gabado, lui, se retournerait contre son peuple. Et donc, Magnus revient à l'intérieur du laboratoire. Et là, il y a un passage dur. C'est-à-dire que Nîmes va tuer un personnage important.
Ah, Will. C'est
Voilà.
vrai.
Donc, il tue le nain. Donc là, on se dit, ok, exécution rapide.
Là, ça fait mal, ouais.
Voilà. Et il y a aussi d'un autre côté. Bon, là, c'est vraiment la fin, c'est que des trahisons.
Oui, c'est que ça. Alors oui, il y a Solal et l'Arcane qui sont enfermés dans ce laboratoire souterrain. Donc, il y a une équipe qui est chargée de libérer de
Ouais,
sa
de faire ça.
machine.
Ouais.
Du coup, t'as la
Élise Fort.
Élise Fort-Valois qui essaye de bidouiller, t'as Niambe et Will qui sont là pour soutenir. Dehors, pour les couvrir, il y a les orques, les pariens, d'ailleurs qui se font laminer
Les
par
aéroscafes.
les aéroscafes. Donc Domka est quasi
Mort.
mort.
Ouais, lui, il se fait couper les jambes. Enfin, ouais, pas en super
Et
forme.
en fait, ils sont en très mauvaise posture. Et donc, au dernier moment, c'est Gabado qui, effectivement, les prend à revers et leur permet de s'échapper.
Ben oui, c'est ça, hein. Mais d'ailleurs, Nîmes tue Will dans le laboratoire. Il y a aussi Albo, en fait, qui était l'un des gardes rapprochés de Gaba, qui finalement l'a trahi aussi.
Bah, c'est la dernière trahison, ouais,
C'est la
effectivement.
dernière trahison, c'est-à-dire que lui, par contre, il est fidèle à l'Empire des Abysses, et même s'il avait conscience de. Enfin, il avait connaissance et il faisait croire à Gaba qu'il était de son côté, au final, pas du tout. Donc, il s'est fait trahir aussi Gaba. Et en fait, il y a une course-poursuite un peu qui se fait. Et finalement, Soph, elle va tirer sur Nîmes dans la rue. Et elle le loupe pas.
Non, elle le loupe pas. Elle tire.
Voilà. Donc, ça fait beaucoup de morts.
Oui, c'est un peu voilà, le point final. L'Arcane est libéré, donc les poissons-crânes ne peuvent pas, ne peuvent plus l'exploiter, ils l'ont plus enfermé dans une cage. D'ailleurs, il est libéré, mais on sait que Solal tombe au sol
Oui.
et
Bah moi, je...
que
Oui, il est mort.
oui, clairement.
Voilà. Et donc ça se termine sur ça, sur toutes ces personnes mortes. Et après, on a un épilogue de fin.
Ah, un long épilogue où on nous dit un peu ce qui se passe
Pour
pour
tout le
tout le
monde.
monde.
Ça, c'est bien ça. Moi, j'ai bien
Ouais,
aimé.
t'aimes bien.
Et donc, du coup, il y a un traité de paix qui est signé avec les abysses. Donc, les poissons crânes se retirent de la surface. voilà, ils veulent pas. De toute façon, ils ont plus la main sur ce qu'ils venaient chercher, donc voilà.
Donc c'est les rebelles, oui. Les rebelles, enfin ce qu'il en reste, qui récupèrent le gouvernement du Grimark.
C'est ça.
D'ailleurs, retournement de veste, Xerold Kelsus, qui était ambassadeur pour les poissons crânes, il réussit par quel miracle
à... Ah, mais ouais, alors ça, j'ai pas compris.
Ouais, en fait,
pourquoi
lui,
il le laisse.
Il est toujours dans les bons coups, enfin, il arrive toujours à se retourner encore une
lui,
fois.
Lui, c'est The Négociateur.
Ouais, c'est vraiment.
Toujours là. Et du coup, effectivement, Xerold, il devient gouverneur.
Ouais, c'est ça.
Gouverneur. Niambe, elle devient son ambassadeur.
Oui, elle devient. Elle est chef du renseignement, un peu comme Nîmes était.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc elle rejoint pour justement reconstruire le Grimark. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal de trucs là qui se passent. Donc, sauf elle va au. Je ne sais pas comment on se prononce.
Le Frerywind.
Je ne sais pas.
Le pays des fées.
Le pays des fées. Parce qu'en fait, on apprend que c'est la nouvelle demeure de l'Arcane.
Oui, elle part avec les orques d'ailleurs.
Ouais. Donc elle va voir en fait comment ça se passe. Donc ils sont en train d'installer leur hutte, etc. C'était un endroit où personne n'allait parce que justement peuplé de pixies, donc forcément dangereux. Mais là, finalement, comme il y a l'Arcane qui a établi son nouveau
sanctuaire, c'est le projet sanctuaire.
C'est ça. Et ben donc elle peut y aller sans crainte en fait d'être touchée par les pixies. Et elle va retrouver Solal.
Solal, ouais. Et Domka, qui a survécu.
Domka, ouais, qui n'est pas en super forme, mais qui est là quand même.
Ouais. Et Solal, enfin, une forme de Solal. On sait que l'Arcane a sauvegardé un fragment de sa conscience avant...
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, il a comment dire, donné un bout de son âme qu'il a façonné. Il a mis la conscience de Solal dedans.
Oui.
Donc en fait, Solal, le corps de Solal en tant que tel, n'existe plus. Parce que d'ailleurs, il y a les funérailles, justement. C'est pour ça que Sof va là-bas. Mais en fait, lui, il est toujours là, donc ça devient un peu un être cosmique, lui aussi. Elle peut discuter avec lui, vraiment, il est... Enfin, c'est un être, entre guillemets, à part entière de l'Arcane. Mais il lui explique que, voilà, il venait juste voir comment ça se passait, et qu'après, il va partir, mais on sait pas où.
Ouais, bah, elle aussi, d'ailleurs, hein, on sait qu'elle part avec Magnus
parcourir
le monde. On n'en sait pas plus, mais eux non plus vont pas rester là.
Non, c'est sûr.
Ouais.
Et après...
D'ailleurs, pour faire le lien avec les autres épisodes, conservation un peu d'un fragment de conscience, ça m'avait fait penser du coup à la faucheuse et au centre de mémoire.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu cet esprit. C'était chouette, mais en vrai, c'était vraiment le dernier cadeau de l'Arcane parce que comme Solal a fait un énorme sacrifice en donnant son corps pour être vaisseau d'Arcane, et ben finalement, l'Arcane l'a remercié en lui permettant d'avoir quand même sa conscience de protéger et de pouvoir dire au revoir à sa sœur.
Ouais.
Parce que tout le livre, on va dire, toute la saga, ça tient sur cette relation
fraternelle entre les deux. Oui.
C'est ça qui est vraiment très forte et qui les pousse à faire des choses incroyables, quoi.
Oui, qui les dépasse complètement.
C'est ça. Donc après, il y a aussi Will, donc le nain qui est vraiment mort. Malheureusement, lui, il ne reviendra pas. Donc il y a ces funérailles qui sont organisées. Et la dernière partie, donc c'est sur Gaba. Donc Gaba qui est à son procès. Tu sais, il est retourné aux abysses.
Ouais.
Et on lui dit finalement qu'il va être libéré en échange de pas dire de... Enfin, qui a donné l'ordre d'assassiner Luba, l'ancien ambassadeur. Mais en fait, c'est pas pour ça, c'est juste qu'ils veulent pas le garder, quoi.
Oui, c'est ça.
Et lui, il a négocié pour avoir des aéroscafes pour lui et pour
Oui, ouais.
Oui. Et eux, en fait, ils vont repartir à la surface.
C'est ça.
Parce qu'ils veulent pas rester comme c'est des parias maintenant. Ils remontent à la surface pour...
En exil, mais
c'est ça.
Leur but, c'est d'aller explorer.
Voilà, c'est juste la découverte, donc voilà. Ça se passe comme ça pour les deux poissons crânes. Et la dernière partie, c'est sur...
Sur Nîmes.
Nîmes,
ouais. Nîmes, on le retrouve dans une province du sud.
Oui.
Et donc, oui, il n'est pas mort, vous l'aurez compris.
À Azograd.
Ouais, Azograd, il a été salement amoché. Sof lui a perforé un poumon avec sa balle, elle lui a tiré à bout portant. Et donc, il se demande si elle l'a fait exprès ou pas.
Elle l'a épargné ou pas, parce que... et c'est vrai que moi, je pense qu'elle l'a épargné, parce que, en fait, Nîmes le dit, il voit pas pourquoi elle... Enfin, ça faisait 8 mois qu'elle s'entraînait, elle était hyper bonne en tant qu'opératrice. Et
pas moyen qu'elle l'ait loupée à bout portant.
Oui, et puis en plus, elle est infirmière, donc elle sait où sont les organes. Enfin, voilà. Donc, Elle l'a épargné, je pense, parce que justement, elle s'est dit, ok, il a fait tout ça parce qu'il était persuadé que c'était la bonne chose à faire pour le monde. Et en fait, il a été trompé aussi par l'Empire des Abysses, au final.
Bah, ça, c'est vrai, hein.
Oui.
On sent qu'à un moment, il est complètement ravagé par
Bah, la découverte
ouais,
de...
de cette fée trahie.
Ouais. Ouais.
Complètement.
Et là, il se dit, ok, donc j'ai bousillé des vies par milliers
Ah bah oui, il a clairement l'image du
pour rien.
salaud enfin, en tout cas avec toutes les morts qui se sont succédées, les trahisons que lui a commises,
C'est ça.
les personnages importants qui sont morts à cause de lui, etc. Oui, il passe pour le méchant, ça c'est clair
Ouais.
dans ce livre-là. Mais en même temps, il y a ce truc aussi, tu dis, bon bah déjà, elle aurait pas pu le rater, mais est-ce qu'elle a vraiment déjà tué quelqu'un? T'as toute une partie, la première partie du livre où elle dit, bon bah moi, Sophéna, je suis infirmière, j'ai prêté un serment, celui de
Oui.
protéger la vie, nanani,
Oui.
nanana. Tu vois, finalement, le général, comme on l'a dit, bon, un peu sacrifice assisté, et là, Nîmes, finalement, elle l'a pas tué non plus. Donc, est-ce que...
Bah, en plus, c'est vrai qu'à la fin, parce que je crois que c'est son frère qui lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Et elle sait pas si elle va être opératrice ou infirmière. Elle dit probablement un peu des deux. Donc voilà, du coup, on sait pas du tout, elle, qu'est-ce qu'elle va devenir. Il va juste partir à l'aventure, mais on sait pas où. Elle dit aussi qu'elle sait pas si elle va se remettre avec Magnus parce qu'ils ont trop changé tous les deux. Bon voilà, après, c'est assez mature, hein, mais...
Oui.
Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du coup, de
Une
ce
fin
tome?
ouverte, encore une fois.
Ouais, mais alors, moi, j'ai bien aimé l'épilogue
Oui.
par personne. Tu sais, vraiment, vraiment tout ce qui arrive aux gens, ça, c'est bien. Même Elise Forvalois, tu sais que, voilà, elle reprend la corporation de son père, qu'elle aide, du coup, les orques à fabriquer, du coup, le nouveau sanctuaire. Donc, ça, moi, j'ai bien aimé, parce que des fois, tu sais pas trop ce qu'ils deviennent et tout. Moi, je suis grave curieuse. Du coup, j'étais bien contente à la fin d'avoir
Le fin mot pour
Ouais, voilà,
chacun,
c'est
ouais,
ça. Même si
chacun
c'est
d'entre eux.
ouvert en disant, bah voilà, ils vont aller vers d'autres horizons, au moins tu sais ce qui se passe, quoi.
Ouais. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié ce deuxième tome. On s'est dit que toutes les deux qu'on l'avait lu beaucoup plus vite que le premier. Parce que ça s'enchaîne vraiment très rapidement. Hein. Pour le coup, il n'y a pas toute cette phase de découverte. Comme on l'a dit, il y a vraiment une cohérence entre le 1 et le 2. C'est les mêmes personnages, le même tableau, on est au même endroit. Donc ça va beaucoup plus vite et on est plus concentré sur l'action,
Oui.
finalement, que... Mais en même temps, avec beaucoup de réflexion, plus d'introspection aussi.
Oui, un peu plus. Après, c'est vrai que le seul reproche est qu'il y a un peu... Enfin, les intrigues sont les mêmes que dans le 1. Et des fois, c'est un peu longué, les jeux de pouvoir, machin et tout. Mais bon, après, voilà, ça reste une guerre. Donc c'est normal, ça se décide pas en 2-2. C'est le seul point un peu négatif que
Oui, moi
j'aurais pu
je
noter.
te rejoins là-dessus. C'est un reproche que je fais à certains animes, à certains mangas.
Ouais.
C'est vraiment les plans dans les plans dans les plans dans les plans.
Oui.
C'est que à un moment donné, bon les gars, enfin c'est vraiment une, je ne sais pas comment ça s'appelle ce ressort-là
Bah, les
vraiment.
poupées russes.
Ouais, c'est l'idée. Les poupées russes de l'intrigue. Et des fois en fait juste. Il n'y a pas forcément besoin
D'en rajouter.
ouais, de faire des retournements de situation, des rebondissements à n'en plus finir, tu vois, j'avais vraiment noté. Et ce qui est un peu, ce que je retrouve aussi parfois pas mal en littérature jeunesse, et qui des fois, bon, ça me sort un peu de la lecture, c'est des répétitions de phrases, de traits ou de caractéristiques. Tu sais, pratiquement les mêmes phrases qui décrivent à chaque fois les mêmes personnages.
Oui.
Genre Xerold, on t'a bien compris qu'il s'habillait moche avec des couleurs. Ça, c'est répété à plusieurs reprises.
Oui, mais après, je sais pas combien de temps il a mis entre les deux livres, mais je pense que c'est pour, si t'as pas relu le premier, en fait, c'est pour te remettre du contexte pour les personnages.
Peut-être, ouais.
Je pense que c'est plus fait dans cette optique, même si oui, des fois, t'es là, c'est bon, j'ai
C'est bon,
compris.
je le sais, je l'ai lu, ça.
Ouais, voilà. Mais je pense que c'est plutôt pour remettre du contexte, parce que oui, il redécrit des personnages où t'es là, ouais, ok, enfin, je sais quoi. Mais bon, après, voilà.
Ouais, mais bon, tu sens que c'est anecdotique, hein, en tout cas, c'est ou alors comme tu dis, c'est juste pour des personnes qui enchaînent pas les deux livres d'un coup et
Oui,
qui.
c'est ça. Et bah, du coup, on va faire ce qu'on a fait pour la faucheuse. On a pris les personnages principaux et on s'est posé la question de qui on mettrait comme acteur si le livre devait être adapté en film ou en série.
Oui.
Du coup,
Ça
on commence par
commence à
qui?
devenir une tradition.
C'est vrai. On commence par quel personnage?
Bon, on a sélectionné, oui, les six principaux.
Alors, on a choisi donc Domka, Solal, Soph, Nim, Will et Nyambé.
Ok.
Alors, on
commence. Dans l'ordre, vas-y. Qu'est-ce que t'as noté, toi, dans l'ordre?
Domka, moi, j'ai mis.
Domka, ok.
Bah, Domka, franchement, c'est pas hyper original, mais Jason Momoa.
Ah, oui, bien joué.
Parce que, enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs vraiment musclés, imposants et tout. Donc, je me dis, il pourrait bien coller pour ce personnage
Ouais.
d'orc puissant.
Oui, puis il a déjà joué des rôles comme ça, un peu, oui, avec des comme ça. Enfin, il a joué Amérindien, il a joué là
Oui, voilà.
dernièrement avec plutôt au milieu Océanie et tout ça.
C'est ça.
Oui, il a ce côté un peu, ouais.
Oui, il a fait Aquaman, donc
Ouais,
le
aussi.
fantastique, ça pourrait marcher. De toute façon, j'avais pas
De toute
d'idée
façon, il
pour.
fallait quelqu'un de baraque, grand,
Et
musclé
beau gosse quand
et
même.
un peu beau gosse, ouais, c'est vrai. Moi, tu
Donc
vois, j'avais
voilà.
pensé à Henri Cavill, donc ouais, c'est
Oui, bah voilà,
les
sinon c'est vrai que ça marchait aussi.
même combat,
Mais un
mais
peu moins
moins
bestial.
exotique.
Ouais. Oui, c'est un peu ça, ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Ça marche bien.
Alors après, moi j'ai Solal.
Solal.
Solal, moi j'ai mis un acteur qui est peut-être pas très connu, qui s'appelle. Bah si, qui est quand même connu, Ben Barnes, dont on a parlé tout à l'heure, qui a joué dans pas mal de séries ou de films fantastiques, notamment Le Monde de Narnia, c'est le prince Caspian, et dans, je sais plus, de
Bone
chez
Shadow,
Bones and Shadows,
oui,
il joue aussi,
Grisha, la
oui,
trilogie Grisha.
voilà, la saga Grisha, il joue le méchant, et du coup, moi, j'ai mis lui pour Nîmes, non, pour Solal, pardon, parce que voilà, je trouve qu'il colle bien, il est quand même un peu beau gosse, il fait un peu dandy, je trouve.
Ouais.
Du coup, voilà, moi j'ai mis celui-là.
Ouais, pour Solal, c'est vrai que j'avais pensé à quelqu'un, comme tu disais, un peu dandy, avec des traits un peu fins. Un peu féminin. Et donc moi j'avais pensé à un acteur que j'avais découvert dans la série Penny Dreadful, qui incarne Dorian Gray. Il s'agit de l'acteur Reeve Carney.
Ouais, oui, c'est vrai que ouais, ça colle plutôt bien.
Ouais.
Ah, ça pourrait marcher pour
Un
Nîmes
peu
aussi.
androgyne, tu vois.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça marche bien,
Ouais,
hein.
ça marche bien.
Alors après, moi, j'ai Soph.
Ouais.
Alors, pour Soph, donc là, moi, j'avais deux choix. J'avais Jessie Maylie, donc, qui a joué aussi dans la saga Grisha. Enfin, Grishka. Je trouve que ça collait bien parce qu'elle est un peu petite, brune, mais voilà, avec du tempérament. Ou sinon, j'avais noté Emma McKee, dont on a parlé tout à l'heure aussi, et qui a joué dans Sex Education, notamment.
Moi, je trouvais que ouais, Emma McKee, elle convient bien.
Ouais, ça marche bien, ouais.
Ça marche bien. Moi, j'avais aussi Daphne Keane qui a joué dans Is Dark Materials,
Ah ouais,
qui
c'est
joue
vrai que c'est.
Lyra, du coup pour les Royaumes du Nord.
Ah bah oui. Ok, que j'ai toujours pas regardé. Donc il faut que
Il
je
faut
regarde. Il faut que je regarde pour comparer si c'est bien comme le
En
livre.
plus, elle a grandi. Bon, c'est vrai que c'était plutôt une enfant. Enfin, elle a commencé en tant que plutôt actrice enfant.
Oui.
Maintenant, elle a un peu grandi. Elle doit être dans les âges à peu près de Sophéna dans le livre.
Oui,
Et
ils ont
ouais.
la vingtaine entre. Enfin, ils ont 25 et 28 vers là, quoi.
Et je trouve que ouais, elle incarne. Enfin, le fait qu'elle ait joué enfant, ça a un côté un peu candide et en même temps je trouve qu'elle a un visage très fermé qui pourrait
Ouais,
correspondre.
à l'infirmière qui,
Ouais,
voilà, ne pleure jamais.
c'est vrai.
Alors, après, on a Nîmes. T'as mis qui, toi?
Alors moi j'ai mis, alors ce que on en parlait avant, c'est
Oui.
que comme sur les couvertures il y a des illustrations des personnages, c'est vrai que des fois c'est dur
De sortir.
de sortir de cette vision-là.
Mmh.
Donc bon, on nous dit déjà dans le bouquin que il a les cheveux quasi blancs et que effectivement il a un peu de style.
Oui, voilà. Il est
Oui.
avec son petit manteau violet là,
Oui, voilà,
qui
c'est ça.
vole au vent.
Et donc moi récemment j'ai découvert un acteur dans une série qui s'appelle Slow Horses et donc c'est l'acteur qui s'appelle Jack Lowden, donc
Un British.
un British, mais tu vois
Mais pas mal, pas
blond
mal.
cheveux courts, ça pourrait bien passer, un peu stylé.
Ouais, c'est sûr que. Non, franchement, ça marche. Ouais, il faut juste lui blondir les
Un
cheveux.
peu, ouais.
Tout à fait. Moi, j'ai mis Alex, je ne sais pas comment ça se prononce, ça doit être Petit Fair. Petit Fair, qui est comme ça.
Ah, pas
Je sais
mal.
pas, je me souviens plus dans quoi il a joué. Là, comme ça, j'aurais dit Hunger Games, mais en vrai, je pense pas.
Comment t'écris?
Eh ben, Alex, Petyder. Voilà.
Petit fer.
Mais je trouve que voilà, ça collait bien. Il a quand même une aura. voilà, il est hyper bien gaulé, on va pas se mentir. Il est peut-être un poil vieux et encore que... Non, il a 35 ans.
Magic Mike.
Ah bah voilà, tiens donc.
C'est là que tu l'as découvert.
Mais même pas. Non, c'est que tout à l'heure, j'ai juste regardé s'il y avait des acteurs blonds et c'est tombé sur lui.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et comme quoi, des fois, on va pas chercher bien loin. Mais je trouvais que, ouais, en termes de physique, ça pouvait coller au personnage de Nîmes.
Ok.
Bon, après, pour Will.
Will, bah oui, effectivement, facile, mais parce qu'en même temps, très peu de références.
Bah voilà, pour rappel, hein, Will, c'est un nain. Donc, on va pas être très surprenante en vous disant qu'on a choisi Peter Dinklage, qui a joué dans Game of Thrones.
En même temps, une bête d'acteur. Hein.
Ah oui, il joue hyper bien, et franchement, ça collerait tout à fait au personnage de Will. De toute façon, un personnage nain,
bah ouais, hein.
En acteur, avec du nanisme, à part celui qui a joué dans Harry Potter, qui fait
oui.
grip sec.
C'est le même qui a joué Willow, d'ailleurs, je crois. Non, qui jouait Willow?
Ah, peut-être, oui.
Ouais.
Ah, je sais pas. Mais c'est comme il est bien transformé pour Harry Potter, j'ai pas... Mais oui. Mais en tout cas, voilà, Peter Dinklage, valeur sûre. Et pour Nyambé, qui as-tu mis?
Bah, Nyambé, oui, c'était dur aussi.
Ouais, on a eu du mal à trouver.
Ouais, moi j'avais pensé à Zoé Saldana en premier, comme ça, qui m'a popé. Mais on avait plus une ref d'animé, entre guillemets. Bon, on avait tout de suite pensé à Mel dans Arcane.
Ouais. Bah, franchement, oui, ça colle à 100%. Mais du coup, c'est un peu dur de trouver une actrice noire qui pourrait incarner du coup le personnage. Mais moi, j'ai quand même mis... alors, elle n'est pas vraiment actrice, mais j'ai mis Willow Smith. Parce que je trouve qu'elle colle bien dans cet aspect très... Enfin, elle fait vraiment guerrière et je pense qu'elle pourrait hyper bien coller au rôle de Nyambé s'il y avait une série ou un film.
Ok.
Et en plus, elle est jeune.
Oui, clairement.
Donc voilà, je trouve que ça marcherait, tu vois, ça marcherait vachement bien.
Et ben même, du coup, ça aurait pu marcher avec Zoé Kravitz.
Ah oui, Zoé Kravitz aussi, ouais. Carrément. Mais elle n'est pas... Bah, après, c'est vrai qu'elles sont pas... Elles sont plus métisses.
Ouais, c'est vrai.
Mais...
Oui, parce qu'on nous dit bien que dans le livre, c'est oui, originaire de la Xamorée.
Et peau noire, vraiment ébène. Mais voilà, du coup, c'est les personnages, en tout cas, les acteurs qu'on verrait bien pour incarner Vaisseau d'Arcane s'il y avait une adaptation. Si vous avez peut-être des meilleures propositions que nous, auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que voilà, on n'est pas non plus hyper calé en cinéma. N'hésitez pas voilà, à nous envoyer des petits messages sur le compte Instagram.
Nouvellement créé.
Nouvellement créé, qu'on n'alimente pas de façon très régulière, mais parce qu'on est débordé, c'est la fin d'année. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que on termine la saison fantasy. On commencera en janvier avec une nouvelle saison qui sera
sur la science-fiction.
Voilà,
donc le sujet. On reviendra à un moment donné à la fin.
Oui,
c'est obligé.
C'est sûr, il y a trop de livres pour faire qu'une seule saison. Donc, y aura une pause plus ou moins longue, en tout cas au moins pendant les vacances de Noël. On espère que l'épisode vous a plu et on vous souhaite surtout de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
Mais oui, passez de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine pour la blague. Et suivez-nous donc sur Instagram. On publiera sûrement la liste des livres à lire pour la saison 2.
Oui.
Comme ça, on pourrait lire en avance.
Prendre un peu d'avance s'il y a besoin. Et voilà, parce que c'est vrai que du coup, comme on spoil à fond, si vous avez envie de découvrir les livres et de comparer un peu ce que vous en avez pensé et nous, ben, ça vous permettra peut-être de lire en avance. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite de passer de belles fêtes et puis on vous retrouve très vite pour la suite du podcast Lectus.
À bientôt.
Salut.